Bonjour à tous. Nous ne laisserons pas faire déclaration ce matin de Jean Castex, le Premier ministre, réuni cet après-midi à Matignon. Les ministres concernés après l'attaque du commissariat de Rambouillet et la mort d'une fonctionnaire de police. Trois personnes sont en garde à vue. Le point sur l'enquête avec Sophie Parmentier. Amarrage réussi, la capsule Crew Dragon s'est amarrée à la Station Spatiale Internationale. La mission Alpha va pouvoir débuter pour Thomas Pesquet et les trois astronautes membres de l'équipage. Nous serons dans un instant avec Grégory Philips à Cap Canaveral et Sophie Becherel nous présentera le rendez-vous exceptionnel que nous aurons tous les samedis avec Thomas Pesquet. Quarantaine obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les voyageurs revenant de 5 pays où la situation sanitaire est critique ou hors de contrôle. La règle s'applique aussi à la Guyane. Dans ce journal également, la situation au Proche-Orient où les violences se poursuivent et la prescription culture du week-end et la fête de la librairie indépendante. La météo pour cet après-midi et pour demain. Du soleil pour tout le monde, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
27 hôpitaux ont été la cible de pirates informatiques en 2020, plus l'Agence européenne du médicament et plusieurs laboratoires. Nous essaierons donc de comprendre pourquoi on s'en prend de plus en plus au milieu de la santé.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20. France Inter. Et on va débuter ce journal avec une bulle d'oxygène et une mission Alpha à bord de l'ISS qui débute parfaitement. Amarrage réussi pour la capsule Crew Dragon et avec la Station Spatiale Internationale. En direct de Cap Canaveral, notre correspondant aux États-Unis, Grégory Philips. Bonjour Grégory.
Bonjour Frédéric.
Tout se passe bien dans l'espace pour Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers.
Oui, depuis bientôt 2 heures, le vaisseau Crew Dragon est effectivement amarré à la Station Spatiale Internationale. On a assisté à cet accostage, si je puis dire, en direct grâce aux caméras de la NASA. Et les images sont évidemment, comme à chaque fois, extrêmement spectaculaires. En ce moment, les deux équipages sont en train de vérifier la pression à bord de chacun des modules. Il faut évidemment égaliser la pression entre Crew Dragon et l'ISS. Et dans quelques minutes, on devrait assister à l'ouverture du sas entre les deux modules. C'est à partir de ce moment-là que Thomas Pesquet et ses trois collègues pourront pénétrer à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale avec une petite cérémonie d'accueil organisée par les 7 astronautes qui se trouvent déjà à bord. Pour l'instant, les opérations se déroulent exactement comme prévu dans les délais qui étaient prévus et l'ouverture du sas devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de minutes maintenant avec encore une fois ces images en direct de l'espace à 400 km au-dessus de nos têtes. Absolument spectaculaire. Les 4 astronautes qui se trouvent à bord de Crew Dragon ont enlevé leur combinaison, leur tenue d'astronaute. Ils sont maintenant en bras de chemise, si je puis dire. Et puis, sans doute une trentaine de minutes, ils pénétreront à bord de l'ISS pour le début de leur mission qui va durer 6 mois.
Grégory Philips, en direct de Cap Canaveral. Et cette mission de Thomas Pesquet, on vient d'entendre, Grégory Philips nous offre depuis hier des images et des moments incroyables. Et chaque semaine, dans ce journal de 13h du samedi. Nous suivrons cette aventure dans l'espace, un rendez-vous exceptionnel tout au long des 6 mois de la mission Alpha. Thomas Pesquet nous livrera son journal de bord dans la Station Spatiale Internationale, son carnet de bord sur orbite avec, à la rédaction sur Terre, Sophie Becherel, notre spécialiste science à France Inter. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et pour ce premier numéro, vous nous expliquez comment cela va se passer. On imagine que dialoguer dans l'espace, ce n'est pas aussi simple qu'un coup de fil.
En effet, on ne peut pas appeler Thomas Pesquet quand bon nous chante. D'abord, l'astronaute, comme tous les membres d'équipage, a un programme chargé, hein, la science, la maintenance de la station, l'activité physique pour compenser les effets de la microgravité. Tout ça, ça lui prend beaucoup de temps. Les journées ne font que 8 heures. Et c'est donc sur son temps libre qu'il a accepté de nous répondre chaque semaine. Pour ce carnet de bord, ce carnet de voyage, hein, j'ai envie de dire, je lui proposerai de nous décrire un fait marquant de sa semaine et puis j'y ajouterai mes questions. Alors, pour ce premier numéro, vous l'avez entendu avec Grégory Philips, Thomas Pesquet n'est pas encore dans la station, il n'a donc pas encore fait son premier envoi. Et ce que vous allez entendre, c'est une interview que j'ai réalisée juste avant son décollage. Comment appréhende-t-il cette deuxième mission? C'est la première question que je lui ai posée.
Le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment quelques années en plus que la dernière fois, mais je sais pas, avec l'expérience ou peut-être moins d'insouciance. Avant, je comptais un peu sur ma jeunesse pour être en forme. Maintenant, je sais qu'il vaut mieux aller faire 3 quarts d'heure de footing tous les jours. Donc maintenant, je suis vraiment en pleine forme physique. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure, on sait pas exactement qu'est-ce qui va être difficile et quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein, quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal. Là, c'est exactement la même chose. Et puis, la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile, a fait que on s'est retrouvé très isolé nous-mêmes pendant l'entraînement. Hein, donc, on se prépare à quitter nos proches, à quitter la Terre pour 6 mois. Et malheureusement, ça fait déjà presque un an qu'on est quasiment en isolation. Donc, ça, c'est pas génial non plus. J'aurais bien aimé avoir... un peu comme tout le monde, évidemment, plus de liberté, plus de possibilités pendant l'année qui vient de s'écouler. Mais bon, évidemment, quand on va dans l'espace, on ne peut pas se plaindre.
Cette mission est placée sous le signe des 17 objectifs développement durable. Le partage des ressources, ça vous préoccupe ?
Je pense que la manière d'aborder tout ça, c'est d'utiliser la station spatiale un peu comme un exemple, comme une petite démonstration de la situation de la planète. En fait, c'est typiquement la même chose. La planète, c'est ni plus ni moins qu'un gros vaisseau spatial, hein, avec un équipage de bientôt un jour 10 milliards d'habitants, mais 10 milliards de membres d'équipage, on va dire, mais qui est parti comme ça dans ce vol autour du Soleil, un peu sans fin, comme de la même manière que nous, on est en vol autour de la Terre, mais les similarités, c'est des ressources limitées, un environnement extrême, et puis il faut entretenir le vaisseau, il faut bien s'entendre, il faut faire marcher tout ça le plus longtemps possible. Évidemment, nous, la nourriture, on ne peut pas se permettre de gaspiller, on ne peut pas se permettre d'avoir du suremballage, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui ne nous maintiendraient pas en bonne santé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de messages à faire passer au travers de notre expérience à nous à bord par rapport à ce que les gens vivent sur Terre.
En tant que Français, vous représentez évidemment notre culture et la gastronomie en fait partie. Alors entre deux plats lyophilisés, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu au menu ?
Thierry Max m'a fait des plats, mais la Cervère aussi en a fait 3, donc en tout ça en fait 6. Donc je vais avoir du bœuf bourguignon un peu traditionnel, cuisine traditionnelle. Les gens sont beaucoup recentrés sur la cuisine maison. Je pense en 2020, le confinement est passé par là. On a une envie d'authenticité. Une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette ou un petit risotto, enfin riz à la risotto, on va dire, d'épeautre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de partager tous ensemble.
Ben dis donc, ça donne envie. Thomas Pesquet avec Sophie Becherel. Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet. Rendez-vous exceptionnel que vous retrouverez tous les samedis dans ce journal de 13h sur France Inter. L'autre actualité aujourd'hui, c'est l'émotion toujours très forte après la scène d'horreur hier au commissariat de Rambouillet et la mort d'une fonctionnaire de police. L'auteur de l'attaque au couteau a été abattu peu après l'attaque par un policier. Jean Castex, ce matin, en déplacement à Toulouse, a réaffirmé la détermination de l'État à lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre, ce matin, devant un commissariat toulousain.
C'est à nouveau la République qui est attaquée. C'est à nouveau l'État qui est défié. Et je veux redire, évidemment, que nous ne laisserons pas faire. Et nous ne laisserons pas faire. Cela va me conduire à adapter, évidemment, l'emploi du temps qui était le mien aujourd'hui pour entrer à Paris et faire le point avec les ministres et les services concernés par les suites qu'il convient de donner aux événements dramatiques qui se sont produits hier.
Jean Castex, propos recueillis par Marius Delaunay concernant l'enquête. 3 personnes sont en garde à vue, des perquisitions ont été menées. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Frédéric.
Les enquêteurs cherchent à mieux cerner le profil du tueur.
Exactement, les enquêteurs cherchent au travers de ces gardes à vue à recueillir le maximum d'informations sur le profil de ce tueur. Un Tunisien de 36 ans qui était arrivé en France en 2009, avait été ponctuellement régularisé en 2019 grâce à un séjour salarié, puis avait acquis en décembre dernier une carte de séjour pour 1 an. Depuis hier, les enquêteurs interrogent le couple de logeurs chez qui cet assaillant était domicilié dans le Val-de-Marne, mais c'était apparemment une domiciliation administrative et en réalité, le tueur vivait à Rambouillet, chez son père qui est lui aussi en garde à vue à 7h. Tous les autres membres de la famille, la mère, un frère jumeau, un autre frère et une sœur sont en Tunisie et vont sans doute être rapidement auditionnés par les policiers tunisiens en lien avec la justice française. Alors pour l'instant, les perquisitions menées hier en France n'ont permis de découvrir que des téléphones cassés, des cartes SIM, aucune documentation djihadiste. Les enquêteurs sont aussi en train d'exploiter le téléphone retrouvé sur l'assaillant juste avant de poignarder sa victime, une fonctionnaire de police, dans le sas sécurisé du commissariat. Le terroriste avait écouté des anachides, des chants religieux. La vidéosurveillance a permis d'établir qu'il était arrivé au commissariat de Rambouillet à scooter quelques minutes avant de frapper avec un long couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres et en criant au moins deux fois à la Wakbar. Cet assaillant était inconnu des services de renseignement. Il n'avait commis jusqu'alors que de petits délits routiers.
Sophie Parmentier, merci. Une réunion aura donc lieu cet après-midi autour du Premier ministre sur les suites qu'il convient de donner après l'attaque et la mort de la policière. L'une des pistes est, selon Jean-Michel Fouvergue, le travail de terrain sur la voie publique. Jean-Michel Fouvergue, ancien patron du RAID et député LREM de Seine-et-Marne.
Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du renseignement de proximité sur la voie publique. C'est-à-dire, il nous faut une police de voisinage, une police qui soit sur le terrain, une police gendarmerie.
De proximité.
Gendarmerie, police municipale, et qui récupère aussi du renseignement d'ambiance. Et ça, c'est important pour le distribuer aux services de renseignement qui vont l'exploiter. De la police de voisinage, telle que ça se fait dans les pays anglo-saxons, et avec la loi sécurité globale, et en y ajoutant les effectifs de police municipale, c'est quelque chose d'important, un pas important. Et franchi dans ce domaine-là.
Jean-Michel Fauvergue avec Ersine Lebovitch. La classe politique s'est indignée après l'attaque du commissariat de Rambouillet, entre colère et sidération. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Et l'opposition accuse Emmanuel Macron d'inaction contre le terrorisme.
Oui, alors l'opposition de gauche, comme à l'accoutumée, se fait à la fois compassionnelle, message à l'attention des familles endeuillées, des policiers, mais prudente sur le fond. Jean-Luc Mélenchon parle de meurtre révoltant, attendant que l'enquête établisse la préméditation du geste de l'assaillant. Danielle Obono, sa collègue insoumise, dénonce, elle, la course à l'échalote de la droite et de l'extrême droite, qui accuse effectivement l'exécutif de graves manquements. Marine Le Pen s'est faite très virulente, les mêmes horreurs se succèdent, la même infinie tristesse, on n'en peut plus, et de proposer la fermeture des frontières, l'arrêt des régularisations, l'expulsion de centaines de milliers de clandestins en France. Éric Ciotti, le monsieur sécurité DLR, n'est pas en reste. Je cite, « Le gouvernement a péché gravement par naïveté et inaction face au terrorisme et à l'islamisme. Revoilà donc à un an tout pile du premier tour de la présidentielle la réactivation du procès en naïveté qui avait provoqué la chute de Lionel Jospin en 2002 ». Propulsant Jean-Marie Le Pen au second tour. Là, l'exécutif entend réagir vite. Vous l'avez dit, réunion dès cet après-midi autour du Premier ministre. En Conseil des ministres, sera proposé très rapidement aussi de revenir sur des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la loi antiterroriste dite SILT de 2017 et celle de la loi dite renseignement de 2015. On devrait voir réapparaître les visites domiciliaires, les mesures individuelles de contrôle qui avaient à l'époque suscité l'ire des défenseurs des libertés. Un conseiller ministériel nous assure que tout cela était déjà dans les tuyaux, qu'il ne s'agit en aucun cas de légiférer dans l'émotion.
Laurence Perron, merci. Dans l'actualité également, la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Quarantaine de 10 jours obligatoire à partir d'aujourd'hui pour tous les passagers en provenance du Brésil, du Chili, d'Argentine, mais aussi d'Afrique du Sud, d'Inde et également de Guyane. Une mesure radicale qui n'avait pas été déclenchée depuis plus d'un an et le retour des Français de la région de Wuhan en Chine. Il s'agit aujourd'hui d'empêcher la propagation de nouveaux variants. Reportage à l'aéroport d'Orly avec des passagers à l'embarquement pour la Guyane. Léa Giraudot.
Derrière son chariot où s'empilent ses valises, Marie reconnaît que rien n'aurait pu l'empêcher de rejoindre sa famille en Guyane.
L'envie était plus forte pour partir.
La jeune femme a modifié son séjour pour pouvoir reprendre ses cours d'infirmière à temps.
Je me suis adaptée puisque j'ai avancé mon billet. Et puis pour le retour, pour les 10 jours de confinement, je me suis arrangée pour que ça puisse tomber pile poil pour la reprise.
Même son de cloche du côté de Pietra, pour cette Suissesse, hors de question de reporter ce déplacement professionnel.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Sinon, on ne fait plus rien. Et puis, on verra bien pour la quarantaine.
D'autres n'ont tout simplement pas encore pris de billet de retour vers la métropole. C'est le cas d'Alfonso.
Quand attendre la fin des restrictions, comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Denola, qui doit rentrer pour un impératif familial en Guyane, ne sait pas quand est-ce qu'elle devra revenir à Paris pour faire son stage, un stage en présentiel.
Pour l'instant, je suis complètement perdue. L'entreprise ne nous a pas donné plus d'informations à ce sujet-là.
Une incertitude qui a poussé beaucoup de voyageurs à repousser leur séjour en Guyane. De nombreux vols ont dû être annulés. Au comptoir d'embarquement, on explique que sur les vols restants, seule la moitié des sièges sont occupés.
Et puis concernant la campagne de vaccination, des créneaux réservés aux personnes de plus de 55 ans exerçant des métiers de deuxième ligne sont mis en place à partir d'aujourd'hui. Cela concerne 400 000 personnes, les conducteurs d'autobus, les routiers, les caissières, les agents d'entretien et de sécurité ainsi que les employés des pompes funèbres ou des abattoirs. Une campagne de vaccination qui se poursuit avec l'arrivée d'un quatrième vaccin de Johnson & Johnson, un vaccin de nouveau autorisé aujourd'hui aux États-Unis.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La situation au Proche-Orient et Washington qui se dit préoccupée par l'escalade de la violence et de haine à Jérusalem, en Israël et dans les territoires palestiniens. Nouvelles échauffourées hier soir près de la vieille ville de Jérusalem, manifestations en Cisjordanie, tirs de roquettes depuis Gaza et tirs de représailles des chars israéliens. Il s'agit à Jérusalem des accrochages les plus violents depuis 7 ans. En direct de Jérusalem, on retrouve notre correspondant Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Et cette nuit, 36 roquettes ont été tirées depuis Gaza.
Oui, de 23h à 6h du matin, les sirènes ont retenti dans le sud-ouest d'Israël. 6 roquettes ont été interceptées par le bouclier antimissile. 2 sont tombées en zone urbaine, provoquant de légers dégâts mais sans faire de blessés. Toutes les autres sont tombées dans des champs ou des terrains. En représailles, l'armée israélienne dit avoir ciblé Gaza et visé un poste d'observation, des tunnels et 2 rampes de lancement. La situation est redevenue calme et les consignes de sécurité ont été levées pour les civils côté israélien.
Et des tirs de roquettes, Frédéric, qui sont liés à la situation très tendue en ce moment à Jérusalem ?
Oui, on s'attendait à ce genre d'événement car hier, plusieurs mouvements terroristes palestiniens implantés à Gaza avaient apporté leur soutien aux Palestiniens qui manifestent depuis plusieurs jours à Jérusalem-Est. Hier soir encore, certains ont affronté la police israélienne après la rupture du jeûne du Ramadan. Au jet de bouteilles d'eau ou de cailloux, la police a riposté avec des grenades de désencerclement et des balles caoutchoutées. Les explosions ont retenti tard dans la nuit. D'autres violences ont éclaté en Cisjordanie occupée, à Bethléem, où des Palestiniens ont jeté des pierres et des cocktails Molotov contre le tombeau de Rachel, un lieu sacré pour les Juifs, et à Calandia, l'un des plus gros checkpoints du secteur qui conduit à Ramallah.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem, merci. En Indonésie, il n'y a, semble-t-il, plus d'espoir de sauver l'équipage du sous-marin porté disparu. Des débris du sous-marin ont été retrouvés ce matin. Le submersible, qui n'y répondait plus après une plongée au nord de l'île de Bali, a coulé avec à son bord 53 hommes d'équipage à Kuala Lumpur, en Malaisie. Gabriel Maréchaux.
Après 3 jours d'intenses recherches où un infime espoir demeurait, l'heure est désormais à la désolation pour la marine indonésienne. Avec la découverte de débris retrouvés au large de l'île de Bali, ce qui était encore une hypothèse funeste est devenu une certitude, le KRI Nanggala a coulé. Ce sous-marin, censé pouvoir fonctionner jusqu'à 500 mètres de profondeur, serait donc bien en dessous de cette limite. Et si la cause de cette catastrophe impliquant 53 sous-mariniers partis dans le cadre d'un exercice militaire doit encore être précisée, divers observateurs rappellent déjà que l'Indonésie n'a pas une bonne réputation en termes de protocole de sécurité, ni un bon bilan en matière d'entretien de sa flotte, qui est pourtant assez ancienne. Le KRI Nanggala avait lui 44 ans, et d'après le South China Morning Post, le nombre de personnes à bord dépassait celui recommandé, avec un sous-marin conçu pour n'accueillir que 34 personnes à bord. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, France Inter.
On en a parlé en début de journal avec Thomas Pesquet et son confinement dans l'espace. On a évoqué le confinement sur Terre. On va maintenant s'intéresser à un déconfinement sous Terre. 8 hommes et 7 femmes sont sortis aujourd'hui d'une grotte dans l'Ariège où ils ont vécu hors du temps pendant 40 jours, sans montre, ni téléphone, ni lumière naturelle. Les volontaires de cette mission à visée scientifique se sont donc déconfinés ce matin, Alain Gastel.
On a bien mangé aussi. La forme, super.
Ils sont sortis ensemble, les uns derrière les autres, un peu hagards et fatigués, mais heureux et surtout surpris. Surpris car ils ne croyaient pas qu'avait sonné l'heure de la fin de l'expérience. 40 jours passés sous terre, pour eux, ne décomptaient que 30 à 33 jours. Certains donc ont été étonnés, comme Tiffen, de voir arriver hier matin les 2 responsables de l'expérience pour sonner la fin des 40 jours.
Moi, je suis la première à les avoir vus. Je l'ai signalé aux coéquipiers et en fait, ils ne me croyaient pas. Et finalement, non, c'était bien vrai au bout du 31e cycle. Et personnellement, j'ai eu besoin de demander 3 fois à Mélusine et Jérémy de me montrer leur téléphone portable avec la date et l'heure pour vraiment me dire, ouais, c'est réel, ils sont vraiment là. Et il y a d'abord eu de l'excitation, de la surprise. Et après, il y a eu beaucoup de tristesse de me dire que c'était fini. Et un petit peu de regret de quitter cette belle grotte.
Comment ont-ils occupé leur temps ? Ils ont beaucoup joué aux cartes, ont beaucoup lu aussi. Voyage au centre de la Terre sera le best-seller du mois d'avril. Ils ont surtout exploré cette grotte qui court sur des centaines de mètres. C'est une des plus grandes d'Europe sous les Pyrénées. Elle est couverte de stalagmites et de concrétions forgées par les siècles. Une autre façon d'apprécier la relativité du temps. conclura un autre confiné volontaire.
Le déconfinement de la grotte par Alain Gastal. Merci. La prescription culturelle pour ce week-end avec la fête de la librairie indépendante. Et cette année, les librairies célèbrent le 40e anniversaire de la loi Lang sur le prix unique du livre. Et pour cela, en plus de donner une rose à leurs clients, ils offriront un ouvrage sur l'histoire de cette loi, Ilan Amand-Youssef.
Rétrospectivement, à 40 ans de distance, on a l'impression que la loi sur le prix unique du livre est une évidence. C'est faux. Il a fallu une détermination sans faille pour la faire passer. Marie-Rose Guarneri, la libraire à l'origine de la fête de la librairie indépendante.
C'était très important qu'on se rassemble autour de cet anniversaire, pas seulement par nostalgie, mais pour d'abord faire connaître cette loi qui s'est mise au travers de la loi du marché pour en faire une loi qui protège le prix du livre. C'est-à-dire que chaque lecteur en France trouvera partout le même prix.
Cette loi que l'on doit à Jack Lang et à l'éditeur Jérôme Lindon a probablement sauvé des centaines de librairies. La FNAC, Édouard Leclerc, ont mené contre elle une guerre acharnée. On le voit dans ce livre qui reproduit des articles de presse de l'époque, qui propose une histoire de la loi en BD, signé Mathieu Sapin, ainsi qu'un texte de l'écrivaine Agnès de Sarthe sur la lecture. Elle se souvient des propos d'un détenu rencontré en prison.
Quand je lis, c'est le seul moment où tout ça, et il montrait les murs, n'existe plus. Et quand il l'a dit, ça avait une sorte d'écho de vérité, mais tellement fort que tous les gens dans la salle, tous les autres détenus autour de lui, ont vraiment vu les murs s'effriter.
Rien que pour se faire offrir ce livre, cela vaut la peine de faire un détour par sa librairie aujourd'hui.
Et la liste des 480 librairies qui participent à la fête de la librairie indépendante est à retrouver sur le site du Centre National du Livre. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec les meubles Gautier. Imaginés, dessinés et fabriqués en France pour durer. Intemporel et élégant. À retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un fond de l'air aux allures estivales cet après-midi sur les régions de l'Ouest avec 24 degrés sur le Finistère, 25 du Pays Nantais au Poitou-Charente, 26 à 27 du Midi-Pyrénées à l'Aquitaine. Il est prévu 20 degrés à Paris ainsi qu'à Mulhouse, 22 à 24 en Rhône-Alpes, autour de la Méditerranée et sur le centre Val-de-Loire. Bémol pour les régions proches de la Manche et de la Belgique, avec 13 degrés prévus sur les côtes et 15 à Lille. Ceci en raison du vent de nord-est sensible et frais. Vent également turbulent aujourd'hui sur les côtes de l'Aquitaine et dans le domaine de l'OTAN, avec en fin d'après-midi un soleil qui va progressivement s'effacer sur les régions du sud-ouest, en marge de l'arrivée d'un peu de pluie demain entre les Pyrénées et le Massif central. À l'avant, le voile nuageux va s'épaissir au sud de la Loire, mais plus au nord, l'ensoleillement va rester généreux, mais avec toujours ce fameux vent de nord-est, sensible et frais, près de la Manche.
Jean-Michel Golinski de Météo France.